Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance et sa garantie de financer les études supérieures de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Auscultation, diagnostic, prescription, la consultation médicale s'articule autour de plusieurs étapes clés, des étapes importantes qui reposent sur une autre essentielle. L'entretien ou interrogatoire qui va permettre non seulement de recueillir des informations sur l'histoire du patient et de sa maladie, mais au-delà de la description des antécédents, des habitudes, de comprendre et de résoudre. Et nous allons aujourd'hui nous interroger sur la façon dont cet échange, cette relation soignant-patient fait partie du soin, mais surtout contribue à l'amélioration et pourquoi pas à aller sur le chemin de la guérison. On a beaucoup reproché ces dernières années à la médecine son virage technique, technologique, aux dépens du soin, le rythme des consultations, l'embouteillage à l'hôpital, au détriment parfois de la disponibilité nécessaire pour comprendre, assimiler, communiquer, mieux accepter un traitement ou un diagnostic, faire part de certaines difficultés de son ressenti et dans le cadre de psychothérapie, d'un travail engagé avec un psychologue, un thérapeute ou un spécialiste en santé mentale, prendre le temps de parler, savoir écouter et comprendre comment la parole peut nous aider à aller mieux et pourquoi pas à guérir, favoriser cet échange. Et comme la langue française permet de le dire en jouant avec l'orthographe et les sonorités, mettre des mots sur les mots. Est-ce que la parole peut nous aider à guérir? Une question qui nous servira de fil conducteur. Et nous avons le plaisir de vous retrouver. Docteur Adrien Chaboch, bonjour.
Bonjour Caroline.
Médecin, psychothérapeute, praticien attaché au centre du traitement de la douleur à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt. Également enseignant universitaire, coordinateur du DU d'hypnose douleur à l'université de Versailles. La parole dans le soin, vue par le professeur Roger Sombier, gastro-entérologue et hépatologue à l'hôpital Yalgado-Ouédraogo, que nous retrouverons tout à l'heure en ligne de Ouagadougou du Burkina Faso. Témoignage après une vie fracassée, reconstruction physique, spirituelle et artistique, le parcours de Priscille Déborah, artiste bionique, autrice du livre « Une vie inventée » aux éditions Albin Michel. Et puis en fin d'émission, on va donner la parole au docteur Vanessa Follop. Elle est médecin responsable du centre de nutrition Bois-Guillaume à l'occasion de la tenue d'un atelier d'échange consacré à l'obésité, lutter contre la stigmatisation. Le docteur Follop, qui est aussi coordinatrice médicale du centre spécialisé obésité en Haute-Normandie.
Priorité santé sur RFI.
Alors bien sûr, c'est un élément central dans la relation patient-malade, patient-soignant. Évidence de l'utilité de ce temps d'échange, de parole, docteur Chaboch. Parce que soigner, pour bien soigner, il faut d'abord déjà comprendre ce qu'a l'autre.
Exactement. C'est-à-dire que nous avons quand même des outils pour pouvoir explorer le patient. Mais plutôt que de le découper en deux spontanément, d'accéder au contenu. C'est-à-dire, c'est l'énigme de ce que la plainte du patient vient dire. Comment on y accède? Comment on la comprend? Eh ben, peut-être que la parole va nous permettre d'explorer ça. Et c'est à ce moment-là où on est passé d'une posture technique, mais qui date d'il y a très très longtemps, à essayer de comprendre ce que l'autre est en train de me dire.
Et important de préciser, docteur Chaboch, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas simplement les malaises d'ordre psychique ou émotionnel, mais on va aussi parler d'affections physiques, des douleurs, des maladies organiques, des maladies métaboliques. La parole, ce n'est pas simplement quand on va mal, quand on se sent mal, déprimé, dépressif, un petit peu au bout du rouleau. Non, c'est pour tout.
C'est pour tout, c'est-à-dire qu'on est passé, effectivement, on l'a très bien dit dans l'introduction, de l'interrogatoire à l'entretien. Et d'ailleurs, je pense qu'on passe pas de l'un à l'autre, mais que les deux font partie d'un ensemble. L'interrogatoire, c'est ce qui, en médecine, on appelle la recherche des signes cliniques, c'est-à-dire l'analyse sémiologique, l'analyse des signes que nous pouvons trouver. Quand on entre en médecine, la première chose que nous disent les bons chefs, c'est ne vous jetez pas sur le patient pour l'examiner, parlez-lui.
On parle d'abord.
Et ça, c'est important.
Et même, il y a un certain nombre de questions à balayer, absolument essentielles.
Exactement. Et c'est pour ça qu'on peut relever le terme d'interrogatoire, qui est peut-être un peu dur, effectivement. On n'interroge pas sous la lampe chauffante, évidemment. Mais on va aller chercher des informations à l'aide de techniques de questions qui peuvent être fermées. Est-ce que vous avez mal là, oui, non? Ou plus ou moins ouvertes. Est-ce que vous pourriez me dire de quelle manière vous avez mal dans la journée? Bon. Et ça, ça va permettre déjà d'ouvrir. On passe de questions fermées, qui c'est uniquement un aller-retour avec l'interlocuteur, à une ouverture au dialogue. Et plus les questions sont ouvertes, plus le risque, entre guillemets, à prendre, c'est que le patient nous en dise plus. Évidemment, je dis pourquoi risque? Parce que parfois, eh ben, le praticien peut être un peu perdu dans des informations dont il ne sait plus trop quoi faire. Donc on a tendance, parfois, à rester dans la technique des questions fermées. Or, les questions ouvertes vont nous permettre d'en savoir plus.
Vous disiez un petit peu perdu. Ça peut arriver des fois, on va voir le médecin pour une angine, on va dire. Et puis là, c'est un flot de paroles qui se déverse. On part dans quelque chose d'incroyable. Comment est-ce qu'on réagit quand on est médecin?
Eh bien, je crois que ça fait partie aussi de la formation et de l'apprentissage des techniques de communication, mais pas que de la technique de communication, c'est aussi de la relation au patient. En médecine générale, où effectivement, on considère de manière assez régulière que le patient vient toujours avec trois plaintes, deux explicites, une cachée, occulte, dont il voudrait nous parler, peut-être qu'il le sait, peut-être qu'il le sait même pas, mais qu'on peut l'aider, l'accompagner à nous le dire. C'est par exemple, nous avons fini la consultation, on a fait le tour de ce qu'il fallait, théoriquement, et sur le pas de la porte, ce qui est déjà arrivé très souvent, ah au fait docteur, je vous ai pas dit, papa est mort.
Voilà. Revenez vous asseoir, s'il vous
plaît. Voilà, exactement. Donc, en creusant ça, on s'est dit que peut-être on pouvait entendre un peu plus largement. Et cela nous permet de nous positionner par rapport au patient d'emblée. Dans l'ouverture de ce champ, on accède à plus d'informations. Donc, on va pouvoir aussi, dans le champ thérapeutique, le soigner plus précisément.
Mais il y a une question essentielle quand on parle de tout ça, c'est le temps, la durée. On sait très bien que quand on va chez certains médecins généralistes, au mieux, c'est 20 minutes. Hein. Des fois, c'est encore moins. Dans ce petit quart d'heure, on a peu de temps pour parler. Est-ce qu'on va dire que d'un côté, il y a la consultation pratique, celle pour repartir avec sa petite ordonnance quand on a de la fièvre, et puis l'autre, il y a l'entretien thérapeutique. Est-ce que l'un peut aller sans l'autre?
C'est délicat. Je vais vous donner un exemple. Nous avons un patient, il va venir, il a, je ne sais pas moi, un diabète. Bon, et puis on va analyser ses chiffres, on va lui poser des questions sur sa nutrition, sur là où il en est, et puis on va lui prescrire un traitement. Mais si nous n'élargissons pas l'entretien, on va peut-être être dans une posture de prescripteur technique qui va prescrire des médicaments dont on attend que le patient les prenne. Puis le patient revient et nous dit « je ne les ai pas pris ». Et là, on ne comprend plus, puisque le bon médecin a prescrit le bon traitement au bon patient, et ça ne marche pas. Et en fait, si on ouvre le dialogue, si on va, et c'est ça qui est très important, vers une approche globale qui tient compte des données biologiques, mais aussi psychologiques et sociales, on va en apprendre plus. Et on a des études qui montrent que, par exemple, cela permet d'améliorer l'observance thérapeutique, c'est-à-dire la capacité à ce que le patient puisse prendre le traitement pour aller mieux, en entendant que peut-être, en fait, il n'avait pas pris ses médicaments parce que son cousin avait eu un malaise hypoglycémique et que ça lui faisait peur.
Ça arrive, on l'entend avec les auditeurs. On dit on engage la parole, on engage le dialogue. Encore faut-il que le patient ait envie de parler. Qu'est-ce qu'on fait quand on a en face de soi un mur, quelqu'un qui ne veut pas parler d'abord? Est-ce que ça veut dire forcément qu'il y a quelque chose qui ne va pas?
Si on est dans le cadre d'une consultation de quelqu'un qui vient et qui reste mutique dans le cadre d'une consultation, c'est interpellant. C'est interpellant, mais c'est une communication.
Vatzalik, il est en train de nous dire quelque chose.
Exactement. Vatzalik disait, l'absence de communication dit quelque chose. L'absence de dialogue dit quelque chose. Quand au début, Freud a commencé, dans les ébauches de la psychanalyse, à écouter ses patients et à aller plus loin et de plus en plus loin, à un moment donné, il se rendait compte que soit les patients restaient silencieux, soit ils banalisaient, ils disaient des choses factuelles de leur journée. Il s'est dit, mince, ça ne marche pas. Il s'est rendu compte qu'en fait, c'est parce qu'il se passait quelque chose exactement à ce moment-là. C'est ce qu'il a appelé la résistance. Et la résistance n'est pas contre le praticien. Ce n'est pas que le patient ne veut pas lui parler. C'est qu'il y a quelque chose qui l'en empêche.
Le blocage. Le sujet fait réagir les auditeurs sur la page Facebook de l'émission. On a Bunkes, hein, lui qui est pour la prudence, pour parler. Il faut trouver le moment, choisir les mots avec beaucoup de précaution. Il n'est sans doute pas prudent de parler juste pour remplir le vide du silence, philosophe. Et puis on a aussi Idrissa qui écrit « La parole libère, nous allège, soulage. Dans toutes les cultures, dans notre tradition, la place du parolier, c'est très joli, la place du parolier compte. » Tout de suite, justement, un premier témoignage.
Priorité santé sur RFI.
Maternité, dépression, tentative de suicide, rééducation, tout réapprendre, la danse, le chant, l'amitié, la parentalité, besoin vital de création, récit de résilience. Priscille Déborah, bonjour.
Bonjour.
Si vous le voulez bien, un petit exercice pour commencer, je vais vous faire travailler. Est-ce que vous pouvez nous décrire, s'il vous plaît, décrire cette photo de vous aux auditeurs de Priorité Santé qui n'ont pas votre livre entre les mains, cette photo de vous telle que vous apparaissez sur la couverture de votre livre « Une vie à inventer ».
Eh bien, je suis assise, voilà, sur un bloc, on ne sait pas exactement quoi. Et j'ai les jambes croisées, donc c'est deux jambes, en fait, c'est deux prothèses de jambes. Et j'ai une prothèse de bras, donc en fait, c'est une prothèse de bras bionique que je commande par la pensée depuis maintenant un an.
Et vous êtes blonde et vous souriez et vous avez l'air paisible.
Oui, c'est vraiment le côté où finalement j'ai réintégré mon corps quelque part, qui est maintenant presque un mélange de chair et d'acier. Mmh. Et en fait, voilà, ces prothèses sont devenues mes jambes, cette prothèse de bras est devenue mon bras, et voilà, ça fait un tout maintenant.
Alors un livre sous-titré « L'incroyable leçon de vie de la première française bionique », et dans ce livre vous expliquez que certaines paroles au cours de cette période de l'après, hein, après votre tentative de suicide, certaines paroles ont été décisives. Lesquelles ?
Effectivement, quand je me suis retrouvée au service orthopédique de l'hôpital, bon, évidemment, j'étais encore en pleine dépression et en plus, triple amputée, c'était évidemment un cauchemar absolu. Et au service orthopédique, ils n'avaient pas vraiment le temps de s'occuper de moi. En fait, ils soignaient mes blessures, mais pas ma tête. Et j'ai eu besoin d'un petit séjour en service psychiatrique de ce même hôpital, en fait, qui est la Salpêtrière. Et notamment, deux paroles qui ont été pour moi très, très fortes et qui m'ont toujours suivie après. La première, ça a été le chef du service psychiatrique qui m'a dit « Écoutez, faites-vous plaisir, revenez à des choses qui vous font plaisir et vous allez voir qu'en accumulant ces petits moments choisis, votre regard sur la vie va s'éclairer progressivement. » Et la deuxième parole qui a été très forte, c'est un aide-soignant avec qui je jouais à des jeux de société, ben justement l'air de rien. Justement, c'était pas dans un interrogatoire, mais vraiment comme une conversation, un peu comme ça, à bâton rompu. Et à qui je disais que moi, de toute façon, je voulais en finir une fois que je serais sortie de l'hôpital et tout ça. Et il m'a dit non, tu peux pas dire ça. Moi, quand je suis arrivée du Mali, je connaissais personne, j'avais pas de famille, pas d'amis, pas de travail. Quand je suis arrivée en France, j'étais en proie à une discrimination omniprésente. Et voilà, et j'ai réussi à me reconstruire. Alors toi, ce qui t'arrive pour moi, voilà, c'est pas non plus catastrophique. T'as tout ce qu'il te faut si tu veux pour t'en sortir. T'as une famille, t'as plein de choses à partager. Donc maintenant, c'est à toi de choisir. Voilà. Donc ça a été effectivement deux paroles qui ont été très très inspirantes pour moi pour la suite. Et la dernière qui a été vraiment révélatrice, ça a été quand je suis arrivée en centre de rééducation où c'était un centre où il y avait que des personnes amputées, où c'était vraiment, j'avais l'impression que c'était vraiment le cauchemar. Enfin bon, je connaissais même pas ce genre d'endroit. Enfin voilà. Et puis tout d'un coup, quelques jours après, j'ai vu deux filles amputées comme moi qui se racontaient des blagues, qui rayonnaient, qui étaient complètement pleines de joie. Et je me suis surprise à être jalouse d'elles. Et je me suis approchée et j'ai dit mais comment vous faites pour être comme ça, aussi rayonnante? Et elles m'ont dit bah écoute, moi c'est pas une jambe en moins qui va m'empêcher de quoi que ce soit. Après, c'est à toi de choisir soit de te lamenter toute ta vie ou soit de décider de prendre ta vie en main. Et en fait, là, ça m'a fait un électrochoc. Là, j'ai réalisé que finalement, mon handicap devenait un peu un prétexte à mon malheur, et que soit à un moment donné, je décidais de m'en sortir, ou soit effectivement, je devenais victime. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai vraiment changé d'attitude, et finalement, j'ai dissocié le handicap de ma dépression. En fait, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est handicapé que tout d'un coup, on n'a plus le droit au bonheur et on n'a plus le droit à une vie épanouie.
Alors, l'expression, elle prend vraiment de nombreuses formes chez vous. On l'entend, il y a la parole, ce verbe qui sort facilement, mais il y a aussi le chant et puis surtout ce besoin vital de création, parce qu'on a l'impression aussi que si vous en êtes arrivé à une telle violence à l'encontre de vous-même, c'est parce qu'il y avait quelque chose en vous qui ne sortait pas, qui a finalement explosé.
Effectivement, moi je crois que je suis née avec vraiment cette vocation d'artiste peintre qui a été refoulée pendant 30 ans et je compare souvent ça à une vocation monastique où en fait tant qu'on est on répond pas à l'appel en fait on n'est pas bien et donc il y a eu ça et ça a été déclenché notamment par la dépression postpartum en fait que j'ai
après la naissance de votre première petite fille.
Voilà.
Alors, la reconstruction, justement, vous le dites, hein, tous les modes d'expression, artiste peintre, le chant, et puis aussi, il y a bien sûr des thérapies engagées, mais il y a aussi ces moments de vie, ces moments de parole et d'échange, ça s'appelle tout simplement l'amitié.
Oui, en fait, pour moi, on n'est rien sans le lien à l'autre. Et d'ailleurs, c'est souvent le problème quand on est atteint d'un handicap lourd, c'est le côté d'être isolé. Et c'est vrai que finalement, moi, ma vie, ma seconde vie, on va dire, a été baignée de rencontres plus inspirantes les unes que les autres. Aussi parce que tout d'un coup, j'étais à ma place et que du coup, je sais pas, en fait, les choses se faisaient naturellement. Dans un élan de bienveillance et où on a envie finalement d'encourager l'autre. Je pense que quelque part, je donnais mon énergie, mais j'en recevais aussi beaucoup. Et à chaque fois, ça m'a porté vers des nouvelles rencontres, vers des nouveaux projets. Et finalement, ça ne s'est pas arrêté depuis 15 ans. Et ça, c'est vraiment essentiel.
Alors, on est au-delà de la parole, docteur Adrien Chaboch. L'expression dans toutes ses formes, hein, pour aller chercher ce que l'on a à l'intérieur. D'où vient cette urgence vitale parfois à dire ce que l'on a sur le cœur, à ce qu'on a dans les tripes? Pourquoi ça peut faire si mal?
Parce que ça relève, dans ce témoignage, on l'entend très bien, il y a cette tension dans le corps. Et cette tension, on peut parler d'énergie corporelle, c'est l'énergie psychique, c'est l'énergie du corps qui va se tendre autour de quelque chose qui cherche à s'exprimer. S'exprimer, c'est sortir, c'est s'évacuer, c'est se concrétiser, c'est passer de notre tête ou de notre corps à quelque chose devant nous. C'est presque le processus artistique dans toute sa splendeur. Et je trouve que dans ce témoignage, c'est très bien exprimé, et dans le lien, parce que quand on produit quelque chose, une œuvre par exemple, c'est à vocation de le montrer à quelqu'un.
De partage.
Exactement. Et là, quand elle, dans le témoignage, on entend qu'on n'est rien sans le lien à l'autre. Ça, exactement. Notre humanité repose sur ça. On parle bien de langue maternelle. C'est-à-dire...
On le voit dans le développement des bébés. Quand ils sont coupés du monde, ils sont malheureux, ils en meurent.
Mais ils en meurent. C'est-à-dire que c'est vraiment... On ne se développe pas. La langue, la linguistique, c'est absolument fondamental, nous permet de décoder notre environnement, de mettre des mots sur notre environnement et de donner, de nommer ce que l'on va donc nommer le réel. Mais le réel est une codification de ce que l'on observe chez certaines populations au Groenland. Et ben pour la neige, on a 20 mots. Et en France, on en a beaucoup moins. Et ben leur réel autour de ça est beaucoup plus développé, différemment du nôtre. Et c'est ce contact donc à notre environnement donné par quelqu'un. Il y a cette devise qui est, je trouve, fantastique. Les parents autorisent les émotions à l'enfant en les nommant. Ah, tu es en colère ? Et ben ça reconnaît que l'autre peut accéder aussi à ça, ça la nomme. Et donc ça, c'est absolument capital, parce que de ce réel qui nous rattache à notre environnement et à l'autre individu, eh bien alors il y a un processus créatif qui peut se faire, qui est très bien exprimé là, parce qu'elle l'a transcendé en œuvre d'art, mais qui même dans une consultation, il y a cette œuvre de création, de construction, d'élaboration à deux, qui permet alors d'avancer.
Priscille Déborah, aujourd'hui, est-ce que vous ressentez encore le besoin de parler, dans une formule thérapeutique, ou d'après vous, ce travail libérateur, il est derrière vous? Est-ce que c'est fini, ou est-ce que c'est l'œuvre de tous les jours?
Alors moi en fait je suis dans une recherche permanente aussi bien dans mon art que effectivement dans ma recherche on va dire un peu philosophique, psychologique et tout ça. Donc en fait moi je continue de temps en temps à voir des thérapeutes mais on va dire plus dans un souci de voilà, d'accomplissement encore qui va encore plus loin mais en fait moi maintenant je suis vraiment bien dans ma peau, c'est vraiment pour toujours fouiller encore un peu plus l'âme humaine, comprendre encore plus parce que finalement c'est toujours un mystère et je pense que c'est effectivement un travail de tous les jours. C'est comme ce travail de se dire que finalement on est heureux, ben c'est pareil, c'est un travail de tous les jours, de se remettre en question tous les jours, de se redonner les moyens de passer une bonne journée. Voilà.
On se travaille tous les jours. On avait un confrère regretté qu'on aimait beaucoup, justement, chaque jour est une vie, et c'est vrai. C'était, bien sûr, les auditeurs l'ont reconnu, c'était Laurence Adou. Merci beaucoup, Priscille Déborah. Votre livre autobiographie, Une vie inventée, publié aux éditions Albin Michel. Docteur Adrien Chaboch, on va se retrouver dans quelques instants. Il y aura, bien sûr, d'autres témoignages, d'autres parcours avec la parole, ce qui permet, bien sûr, on l'a bien compris, hein, de changer complètement la vision des choses. On se retrouve après un petit flashback musical. Little Willie John et talk to me, le dit deux fois.
Talk to me. Talk to me.
Priorité santé sur RFI, comment la parole peut-elle aider à guérir? Nous sommes toujours en compagnie du docteur Adrien Chaboch, médecin et psychothérapeute. Ce lien patient-soignant, dans votre cas particulier, docteur Chaboch, l'hypnose. Est-ce que la parole, l'expression, ce que disent les patients en séance d'hypnose, est-ce que c'est différent par rapport à l'échange en situation d'éveil?
Oui, et encore que, je sais pas dans quel état on est le plus éveillé. Est-ce que c'est quand on est en état d'hypnose ou quand on
hyper éveillé.
Exactement. En fait, dans cet état particulier, mais dont je voudrais faire un petit point de précision, c'est qu'on appelle hypnose quoi? On appelle hypnose une technique occidentale qui permet d'induire, avec des techniques de communication, un état chez quelqu'un. Cet état-là, celui qu'on appelle hypnose en Europe, eh ben, il existe dans d'autres cultures, même d'ailleurs dans toutes les cultures. C'est ce qu'on pourrait appeler, moi, volontiers, un état de transe. Mmh. Bon. Et donc, dans cet état de transe, on accède à quoi? On est dans un état mystérieux, énigmatique, spirituel? Bon, pas forcément. On est juste là. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est par rapport à ce qu'on disait du langage, qui nous aide à être en contact avec notre environnement.
Est-ce que c'est le verbe de l'inconscient, l'hypnose?
Non, parce que l'inconscient sera toujours l'inconscient. Mmh. Par définition. Mmh. Parfois, on me pose la question, oui, mais est-ce que vous allez accéder à des choses de mon inconscient? Ben non, parce que par définition, elles sont inconscientes.
Coffre-fort du secret.
Exactement. Mm. On ne révèle jamais ce qu'il y a dans l'inconscient, puisque c'est sa définition, c'est ce qui n'est pas conscient. En revanche, le patient vit une expérience où il est en présence de son environnement, ici et là. Mm. Et là, alors, il se rend compte de certaines choses différemment. Il a des prises de conscience, c'est ce que Freud aussi cherchait à amener chez ses patients, une prise de conscience qui va l'aider à se comprendre. Et en son comprenant, si tout d'un coup je vous dis « Remarquez, Caroline, que vous êtes peut-être assise de cette manière dans votre fauteuil », en en prenant conscience, vous dites « Ah oui, je suis moins confortable, je me réinstalle ». Et c'est assez simple.
C'est un conseil, donc je me réinstalle.
Exactement. Et là, on se sent tout de suite beaucoup mieux. C'est de ça dont il s'agit. Mais évidemment, avec le champ de la complexité de certaines situations très complexes que vivent les patients dans leur souffrance. Mais on essaye justement de les amener à cette simplicité.
À plus de confort. Une autre voix à présent. C'est la vôtre, Aminata Sissako. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, je le dis d'emblée, le docteur Chaboch est ou a été votre thérapeute. Le motif de consultation, quand vous commencez à aller voir un médecin au départ, madame, c'était des douleurs au pluriel, on va dire un vrai et un grand malaise physique. Comment vous décrire à ce moment-là ?
Écoutez, j'étais dans une situation vraiment que je n'avais jamais connue. Donc, je me suis retrouvée totalement bloquée, paralysée au niveau du cervical, avec des inflammations, mais vraiment douloureuses. Je dormais à peine. C'était pour moi, impossible. Ça m'arrive, impossible.
Très difficile à vivre, donc généraliste, antidouleur, IRM, rhumatologue. Et quel diagnostic ?
Une névralgie cervico-brachiale.
Et là, vous avez dû arrêter de travailler ?
Exactement. Donc, j'ai été en arrêt assez longtemps, mais j'ai toujours été active et que je voulais toujours continuer à travailler, j'ai travaillé à mi-temps thérapeutique.
Mmh. Et à ce moment-là, pour ces douleurs, avec ce diagnostic, qui concerne plutôt une spécialité comme la rhumatologie, vous aviez consulté quel praticien ?
Donc, j'avais effectivement consulté un médecin traitant et un rhumatologue. Mmh. Et en fait, le diagnostic était clair. C'était une névralgie. C'était au niveau de C5, C6. Et donc, j'ai un nerf une cervicale qui pinçait un nerf. Mmh. Et donc, c'est ce qui provoquait toutes ces douleurs. Donc, sur le plan médical, oui, c'était avéré. J'étais sous traitement. Des traitements lourds, des traitements qui m'aidaient, à surmonter la douleur, mais elle était toujours là, avec des périodes de crise, de grosses crises, des périodes où ça allait un peu mieux. Mais c'était sans fin, c'était en continu, et honnêtement,
Aminata Sissako, d'où vient la suggestion ? On va parler de passer de la médecine dure, non pas à la médecine douce parce que c'est pas la question, mais à la médecine du verbe.
Alors, la suggestion me vient en fait d'une responsable que j'ai rencontrée, une responsable à mon travail, et aussi d'une ostéopathe qui avait un peu cette appétence, psychologique, et qui essayait un peu de me parler, de connaître un peu mon environnement personnel.
Excusez-moi, et jusque-là, vous en pensiez quoi d'avoir cette démarche de parole ? Parce qu'on a bien compris, vous n'aviez pas tardé à consulter quand vous aviez des souffrances. Mais pour autant, vous n'aviez pas fait le lien avec un possible problème au niveau de votre ressenti intérieur.
Du tout. Ouais. C'est vrai que c'était pas du tout, dans ma culture, pour le préciser. Mes parents, en fait, sont originaires du Mali. Et c'est vrai que dans ma culture, et j'ai grandi comme ça, c'est tabou de parler. C'est tabou de raconter son histoire personnelle. C'est tabou de raconter ses problèmes. Et c'est vrai que moi, à aucun moment, je n'ai jamais pensé à parler, honnêtement.
Alors, l'échange a lieu. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à vos expériences précédentes ?
Il y a des différences. C'est on se sent écouté, On a l'impression, alors moi je me souviens de ma première consultation d'ailleurs avec Victor Chaboch, c'était, alors j'étais très mal à l'aise parce que c'est vrai que je n'avais pas cette habitude de me livrer et c'était un exercice difficile pour moi. Donc j'avais l'impression d'aller dans tous les sens, etc. Mais en fait, en face, on a une personne qui est à l'écoute, qui semble prendre au sérieux tous nos mots et qui nous donne aussi une lueur d'espoir dans la façon d'appréhender cette douleur, cette maladie. Et voilà,
est-ce que vous avez senti quelque chose de différent dès la fin de la première séance ? Excusez-moi de vous avoir coupé.
Oui, totalement. Totalement.
Vous êtes senti comment quand vous êtes sorti du cabinet ?
Je me suis sentie soulagée. Soulagée d'avoir eu en face une personne qui me comprenait. Et j'ai eu aussi un sentiment d'espoir. Honnêtement, voilà, je ne savais pas comment m'en sortir. Et vraiment, j'ai ressenti de l'espoir. Et soulagée, délivrée en me disant « Ah, enfin, on va... » Voilà.
Est-ce qu'à chaque séance, vous aviez l'impression de laisser un petit poids là-bas, en sortant, et d'être un petit peu soulagée, allégée à chaque fois que vous sortiez d'une séance ?
Complètement. Ouais. Complètement.
Et ce fardeau, c'était quoi pour vous ? C'était votre passé ? Ce sera ma dernière question. Est-ce que finalement, ça a changé votre regard sur votre passé, mais aussi sur votre lien aux soignants, sur votre possibilité d'aller mieux ?
Totalement, ça a changé mon regard sur le passé et mon regard sur moi aussi. Ça m'a permis de me retrouver, de savoir qui je suis, en tout cas d'être reconnectée avec le moi profond. Et effectivement, mon rapport aux soignants et à cette pratique a totalement changé. C'est une relation de confiance qui s'installe, on se sent en sécurité, en tout cas ça c'est mon ressenti. Et honnêtement, je le conseille en tout cas à toute personne en tout cas qui est en souffrance, voilà, physique.
Les personnes qui sont à l'écoute, vous avez découvert quoi en vous, Aminata Sissako ? Qu'est-ce que vous avez découvert ?
J'ai découvert que j'existais au final, parce que je vivais, on va dire, je suivais un formatage. Et donc en fait, je ne vivais pas pour moi. Je ne vivais pas pour moi, je vivais pour faire plaisir, pour éviter le rejet. Et au final, c'est mon corps qui a parlé. C'est mon corps qui a parlé. Et en fait, cette contradiction qu'il y avait entre mon corps et mon esprit, en fait, a été matérialisée avec ces douleurs-là. Et concrètement, depuis que je suis le docteur, depuis, je dirais, le 10 mars 2020, je n'ai plus eu de crise du tout. Je ne suis plus du tout sous traitement. Et c'est vraiment la parole, la pratique de l'hypnose, c'est vraiment ce qui m'a guérie aujourd'hui.
Guérie, et vous dites le mot, parce que quand on a commencé cet entretien, vous nous aviez expliqué que vous étiez complètement bloquée en arrêt de travail. Donc on a bien compris toute cette évolution. On vous remercie infiniment pour ce témoignage, Aminata Sissako. Retrouverez la vraie personne qui est en moi, c'est ce qu'on a entendu. Votre réaction, docteur Chaboch ?
C'est un témoignage qui montre que effectivement il y a de l'espoir, c'est-à-dire qu'en fait on peut faire quelque chose même quand on ne comprend pas de ce en quoi on souffre. Mais c'est dans une approche intégrative, parce que il ne s'agit pas de psychologiser en donnant un sens attribué, interprétatif. Ah, j'ai mal au dos, j'en ai plein le dos. Oh là là, c'est très complexe, c'est beaucoup plus complexe que ça.
C'est pas la première séance qu'on a tout compris.
Exactement. Mais on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la vie d'un individu. Et c'est bien une médecine complémentaire. On n'est pas dans une approche alternative ou perpendiculaire. On est dans l'intégrativité. C'est-à-dire qu'évidemment, on a parlé, on a élaboré des choses ensemble, mais on a aussi fait des examens, pris des médicaments, et ainsi de suite. Donc, c'est l'ensemble de ça. Et c'est ça, l'être humain est complexe. La complexité, c'est quoi ? Ce n'est pas juste la somme de plusieurs choses qui fait un tout. C'est la somme de ces toutes choses qui fait un tout et des liens complexes d'intrication entre toutes ces parties-là. Et là, alors, de restituer à la personne, de l'aider à aller vers ce chemin, peut débloquer des situations.
Et on va partir tout de suite pour le Burkina Faso.
RFI à Ouagadougou, 94 FM.
En ligne avec nous, professeur Roger Sombier, bonjour.
Bonjour.
professeur de gastro-entérologie et pathologie à l'hôpital Yael Gado-Ouedraogo de Ouaga, professeur, médecin du ventre, de la digestion, médecin du foie, mais aussi homme d'échange, avec toute l'importance des explications, parce que d'abord, professeur, ça permet aux patients d'avoir moins peur.
Oui, c'est bien cela, effectivement. La parole est l'acte en fait médical le plus difficile, donc il faut écouter le patient. Et bien souvent, combien de patients les médecins reçoivent, parce que tout simplement, ils changent de médecin à plusieurs reprises, et puis ils vous disent en consultation, oui, ben, le médecin que j'avais vu précédemment, il est peu communicatif, il n'explique pas les choses, et par contre, tel médecin ou un autre, lui, m'explique bien, il me rassure, il m'écoute, et voilà, à la fin de la consultation, les patients, très souvent, ils vous disent, merci docteur, je suis guéri à plus de 50%, je suis rassuré, voilà, j'ai pas besoin de prescription.
Et votre capacité justement à écouter, à expliquer à vos patients, professeur Roger Sombier, est-ce qu'on vous l'a apprise, enseignée à la fac de médecine ?
Non, on ne me l'a pas appris à la fac de médecine. À la fac de médecine, on nous apprend, bien sûr, tout à l'heure, comme on l'a dit lors de l'émission, donc lors de la sémiologie, donc à analyser, à évaluer les symptômes du malade. Il y a l'interrogatoire et l'examen du malade. Mais bien souvent, on est dans un modèle plutôt paternaliste, où c'est le médecin qui pose les questions, qui est bienveillant, qui décide pour le malade, alors que le temps d'écoute, il est difficile, ça prend du temps, et ça s'apprend effectivement, mais il n'y a pas effectivement une formation dédiée à l'écoute au niveau de la fac de médecine, donc dans la formation. Donc là, je l'ai appris au niveau de l'expérience pratique, voilà, et je le dirais clairement. Les malades, ce qu'ils nous reprochent, c'est de ne pas être tout le temps, en fait, on va dire, efficace ou les guérir, mais c'est d'être présent, de savoir les écouter et être là quand ils ont besoin de nous.
Est-ce que justement, professeur Sombier, certains sont étonnés de voir l'application avec laquelle vous expliquez tout pas à pas, vous leur dites voilà pourquoi tel médicament est conseillé, voilà pourquoi telle opération serait mieux pour vous. Est-ce qu'ils vous disent, ben, j'avais jamais vu ça, les autres avant ils m'ont dit, faut faire ci, faut faire ça, un point c'est tout.
Oui, c'est bien le cas, c'est bien le cas. Vous l'avez dit tout à l'heure, lors de l'émission, les 15 à 20 minutes dédiées le plus souvent pour la consultation, c'est bien, bien souvent insuffisant parce que les malades viennent pour des plaintes évidentes qu'ils ressentent, c'est des symptômes, des manifestations douloureuses et diverses. Mais au-delà de ça, il faut prendre le malade en charge dans sa globalité. Mmh. Ça a été dit tout à l'heure. Voilà, c'est l'être humain qui est là. Il vient certainement pour des plaintes, mais si vous savez l'écouter au-delà de ces plaintes, vous allez donc vous rendre compte que le malade lui-même va vous donner son diagnostic et le traitement. Et les malades, effectivement, me disent souvent, mais à l'issue de la consultation, mais docteur, est-ce que vous prenez autant de temps avec tous les patients? Donc, comme vous le faites avec moi, je dis, ben, il faut avoir la même attention pour tous les patients. Et bien souvent, voilà, ben, je déborde sur les 15 à 20 minutes au niveau des consultations avec les patients. Il m'arrive très souvent de faire une demi-heure, 45 minutes par patient.
Et donc, les autres attendent parce qu'il y a du retard dans votre salle d'attente. La question de l'état d'esprit du patient, professeur Roger Sombier, est-ce que quand vous sentez que quelqu'un va très mal, je ne parle pas de son corps, mais de son état général, qu'il est très déprimé, il faut choisir un mode d'approche différent par rapport à quelqu'un qui vient juste vous poser des questions?
Oui, clairement oui, clairement oui, effectivement. Quand vous avez un malade qui vient, donc le plus souvent, ils ont des douleurs, je dirais, fonctionnelles, parce que la maladie aiguë, je leur dis déjà, ce qui est grave, ça se voit d'emblée. Quelqu'un qui fait donc des vomissements, une hémorragie digestive, une occlusion ou pas, ça c'est tout de suite. Mais très souvent, vous allez voir des malades qui sont douloureux chroniques, et forcément, cette douleur chronique va donc toucher leur affectivité, ça va donc générer de l'angoisse. Et le malade va très, très souvent avoir des perceptions anormales associées à sa douleur. Et il va venir, comme vous dites, à la consultation, quand c'est comme ça, il va vous décrire sa perception de sa douleur. Et très souvent, les maladies vont vous dire ça brûle, ça chauffe, j'ai des picotements. J'ai vu un malade en consultation qui avait des douleurs thoraciques qui irradiaient donc vers le côté droit. Il m'a dit qu'il avait l'impression d'avoir une ardoise dans l'abdomen et la cage thoracique. Donc, vous comprenez que quand c'est comme ça, ce n'est pas parce que je comprends mal et j'explique mal les symptômes qu'il ne faut pas le croire, qu'il ne faut pas donc l'écouter et entendre sa souffrance. Donc là, il faut une approche tout à fait autre à ce niveau et montrer au malade, lui expliquer que ce qu'il ressent est réel, il souffre réellement de ça, même si je n'ai pas d'explication rationnelle, que je ne peux pas tout comprendre, mais que je suis là pour l'écouter et le soulager. Donc,
il vous a confié quelque chose.
Ben voilà, il m'a confié quelque chose, comme vous dites. Voilà. Et très souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, si vous écoutez les malades, que vous savez prendre le temps pour eux, ils vous confient bien au-delà de ce qui les amène pour le symptôme de la consultation.
Qu'est-ce qui vous rend heureux, vous, professeur Roger Sombier, médecin d'expérience, à la fin d'une consultation ?
La satisfaction du médecin à la fin d'une consultation, je le dis tout le temps, mes malades, c'est le sourire du malade. C'est vraiment le sourire du malade, voici la satisfaction du médecin. Et je leur dis souvent, les trois qualités du médecin, c'est l'humanité, c'est la disponibilité, c'est la compétence. Très souvent, donc, nous soulageons les malades, nous aidons à ce qu'ils aillent mieux, nous les guérissons parfois, mais toujours, nous devons être là quand les patients ont besoin de nous. La médecine, c'est un sacerdoce en raison du dévouement, donc la médecine exige à l'égard d'autrui.
On a des frissons quand on vous écoute, professeur Roger Sombier.
Je vous en prie.
On vous remercie parce qu'on est tous amenés un jour à être des patients et on aimerait tomber plus souvent entre des mains comme les vôtres. Je rappelle que vous êtes gastro-entérologue et hépatologue pour une spécialité qui n'est pas toujours très simple, on va le dire. À l'hôpital Yael Gado Ouédraogo de Ouaga, docteur Adrien Chaboch, on a entendu un sage, un soignant. L'empathie, ça s'apprend parce qu'on a envie d'avoir le mode d'emploi.
Oui, absolument. L'empathie, ça s'apprend, absolument. Alors, il y a effectivement des cours de communication qui peuvent être donnés. Ça dépend des universités, mais de plus en plus, fort heureusement. La communication, c'est la maîtrise de certaines techniques relationnelles et d'échange du mot, mais des canaux de communication, verbal, non-verbal, paraverbal. Mmh. Bon. Et puis, il y a aussi la relation thérapeutique. Et ça, c'est au centre. Et l'empathie, dans la relation thérapeutique, permet d'accéder au monde intérieur de la personne. Comme l'a très très bien dit mon confrère professeur Sombier, quand le patient nous dit bah, « ça me brûle comme une ardoise ou ça pique comme des orties », c'est la capacité du praticien à accueillir cette information. Mais pas que juste « je l'entends, ok, d'accord », à se la représenter dans son esprit à lui, à l'imaginer et à faire le lien avec les données médicales, avec ses compétences.
Mais j'ai envie de vous couper pour une chose, et ce sera ma dernière question. Attention quand même aux soignants pour ne pas s'imprégner, voir cette douleur se développer en nous. La question se pose quand on voit l'importance de la détresse psychique chez certains soignants, notamment les suicides chez les étudiants en médecine qui n'ont pas les armes pour entendre toute cette douleur parfois.
Parce que exactement à cet endroit de la définition de l'empathie, Caroline, c'est exactement ça. Il y a une virgule, tout en accédant au monde intérieur de la personne, tout en restant soi-même. Mmh. Et cette virgule, en restant soi-même...
C'est le professionnel de santé.
C'est ce qui distingue l'empathie de la sympathie. Et la sympathie, on va être envahi. Et ça fait que nous ne sommes plus à notre place de soignant. C'est là où l'empathie, c'est sérieux, c'est concret, ça s'apprend.
J'ai une dernière question. On parle toujours du temps. Docteur Chaboch, aux médecins qui disent « on n'a pas le temps », qu'est-ce que vous avez envie de répondre ?
Je crois qu'on a tous fait l'expérience de moments qui passent trop vite ou de moments qui durent longtemps. En fait, je crois que le temps, c'est une matière qui se travaille, qui est pas si externe à nous. Et que le professeur Sombier, j'abonde dans son sens, parce qu'on va dire la même chose, c'est la disponibilité.
Et là, s'il n'y a plus de temps disponible, je vais vous couper la parole. Je suis impitoyable, mais c'est comme ça. On vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, docteur Adrien Chaboch. Et à très bientôt, ça c'est sûr, dans Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Changer le regard sur l'obésité, ça aussi, ça peut s'apprendre et c'est ce que propose l'atelier d'échange organisé au Centre de Nutrition Bois-Guillaume au CHU de Rouen. Docteur Vanessa Follop, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin responsable de ce centre de nutrition, coordinatrice médicale du centre spécialisé obésité en Haute-Normandie. À qui s'adresse ce rendez-vous ?
Alors, c'est une formation qu'on a mis en place depuis 2015 qui s'adresse aux soignants, toutes professions confondues, à la fois des soignants qui travaillent dans notre établissement au CHU de Rouen, mais également dans toute la France.
Alors, changer d'image, parce que les préjugés, on va dire, ils sont partout, docteur Follop, et ce que vous soulignez, c'est que ces images négatives sur les personnes en surpoids, sur les personnes en état d'obésité, eh bien, elles circulent y compris au sein du corps médical.
Bah, évidemment, en fait, on oublie souvent que le soignant, c'est déjà un humain comme tous les autres, avec son histoire de vie, ses croyances, ses préjugés. Et puis, quand on est confronté à un patient en situation d'obésité très massive, en service de soins notamment, il y a des tas de problèmes qui se posent, des problèmes d'équipement, de manutention, qui peuvent le mettre en difficulté. Et puis, du coup, biaiser un peu ce regard.
Alors, vous disiez justement sur cette exclusion matérialisée, certains aménagements sont pas du tout adaptés au poids, au volume, des chaises trop petites dans la salle d'attente, s'il y a deux patients, il y a plus de place pour les autres, une balance limitée à un poids moyen, donc il y a ce côté matériel, il y a aussi les commentaires, il y a aussi le regard, il y a aussi d'autres équipements comme les blouses. Comment on fait pour repenser tout cela ?
Alors, en France, il y a eu la création de centres spécialisés obésité. Mmh. L'objectif de ces centres, c'est d'essayer de réfléchir justement à l'équipement médical qui pourrait être adapté aux patients qui ont une obésité très massive, avec des établissements de référence qui sont normalement capables de les prendre en charge.
Et cette grosse
c'est loin d'être le cas partout. Finalement, le cas partout, voilà. Et on se bat quotidiennement pour que l'équipement se fasse à la fois dans ces établissements-là et puis dans les établissements partenaires de proximité.
Alors, on comprend bien votre rôle auprès des soignants, mais au-delà de cela, c'est le rôle dans la société, changer de regard à tous les niveaux. Et on peut dire que ces jugements à l'encontre des personnes en surpoids, eh bien, dans le monde du travail, c'est quelque chose qui est particulièrement rencontrer souvent.
Cette discrimination de la personne de forte corpulence, il a été montré qu'elle était vécue par ces personnes-là dans le monde professionnel, effectivement, avec un salaire inférieur, une embauche inférieure, des promotions qui sont moins fréquentes, mais aussi dans notre société en général. Et effectivement, dans le milieu du soin, il existe aussi des difficultés et parfois des préjugés, voire des discriminations chez ces personnes obèses.
Et pour aider ces patients, justement, pour se changer les choses en profondeur, l'importance de comprendre le ressenti quand on se sent mis de côté, quand on se sent pointé du doigt. C'est pour ça que vous proposez une immersion aux participants. En quoi est-ce que cela consiste ?
On utilise une combinaison qui mime une obésité de 200 kilos qui permet aux soignants d'expérimenter des situations de soins mais aussi de vie quotidienne pour vivre l'impact physique et psychologique de l'obésité.
Ça veut dire, par exemple, on voit à quel point ça peut être difficile de descendre d'un lit, de se retourner, de passer une porte. Là, ils le vivent de l'intérieur, au sens propre.
Alors, on fait même plus que ça, puisque on va prendre le bus, on va en ville, acheter des chouquettes dans une boulangerie, essayer des chaussures dans un magasin. En fait, ces costumes sont très immersifs. Et on peut pas présager que ce sont des combinaisons. Donc, le soignant se trouve vraiment en condition d'obésité massive, avec un poids supplémentaire sur lui de 15 kilos, un volume très important, et puis il peut aussi expérimenter le regard des autres. C'est ça qui est intéressant finalement, de voir le regard de la société porté sur quelqu'un qui a une corpulence différente.
Un travail au long cours pour se débarrasser des jugements, d'où l'importance de multiplier ce type d'initiative. On vous remercie beaucoup, docteur Vanessa Follop. Je rappelle que vous êtes responsable et coordinatrice médicale du centre spécialisé obésité en Haute-Normandie. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique, la réalise. Assez Toussamaké, Ophélie Lassen, Kayla Chatagnon avec nous aujourd'hui, ainsi que Didier Bleu et Guillaume Buffet. Demain, on va parler des jugements des soignants à l'encontre des jeunes, émission spéciale Jeunes Auditeurs. En finir avec les regards critiques et les commentaires déplacés. À demain, d'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sounou Assurance, qui assure les études de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.